voix Afrique. Les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. Il est 11h temps universel. Le Maroc a adressé une sévère mise en garde à l'Union européenne en l'appelant à mettre pleinement en œuvre l'accord agricole avec le Royaume sous peine d'en subir les conséquences. Signé en 2012, cet accord de libre-échange réciproque sur des produits agricoles et de la pêche avait été invalidé en décembre 2015 par le tribunal de l'Union européenne après un recours du Front Polisario contestant l'inclusion du Sahara occidental dans le traité. Toute entrave à l'application de cet accord est une atteinte directe à des milliers d'emplois d'un côté comme de l'autre, dans des secteurs extrêmement sensibles, a protesté le ministère marocain de l'Agriculture dans un communiqué. Elle expose l'Europe à un véritable risque de reprise des flux migratoires que le Maroc, au gré d'un effort soutenu, a réussi à gérer et à contenir, prévient le texte. En République centrafricaine, fin des opérations du démantèlement du camp des déplacés de l'aéroport de Bangui. Lancé en décembre dernier, ce processus a permis à plus de 28 000 personnes de regagner leurs anciens quartiers ou de nouveaux lieux d'habitation de leur choix. Reportage à Bangui de notre correspondant.
Les 8000 ménages ont été rasés par un bulldozer. Certains déplacés ont regagné leurs anciennes habitations. D'autres, par contre, se sont éparpillés dans la capitale. La ministre des Affaires sociales, Virginie Baïkoua, assure que les retournés seront assistés dans les quartiers.
C'est de venir vers la personne. Tu es installé là, tu vas bien, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez des moyens pour continuer après à payer? Vous voyez, c'est tout un travail à faire après.
Alors que la majorité a déjà quitté les lieux, un petit nombre visiblement mécontent décide de rester sous le hangar de l'aérogare. Pierre Ndoini explique que sa famille n'a pas encore touché la somme promise par le gouvernement. Donc, difficile pour elle de trouver une maison de location.
Ce qui ne marche pas, c'est qu'on nous a promis une petite somme pour pouvoir se réinstaller à l'extérieur de notre départ. Malheureusement, on n'a pas eu cet argent, c'est pourquoi nous sommes restés.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
On nous a fait des promesses et cette promesse, on pense que ça peut être irréalisable.
Vous pensez que vous allez rester ici pendant combien de temps, puisque tous les autres sont parti.
Ça, on n'en sait rien dessus, exactement.
Ça vous inquiète?
Effectivement, on est inquiet.
Une dizaine de ménages se trouvent dans la même situation que la famille de Pierre. Les responsables en charge de cette opération ne souhaitent pas pour le moment s'exprimer sur ce qu'ils considèrent comme des cas isolés. À l'exemple du site de l'aéroport Bangui Poco, plusieurs autres camps de la capitale sont déjà fermés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et au Burundi, les dernières pluies, le soleil et les maladies continuent de détruire les récoltes. Cela s'est traduit par une situation d'insécurité alimentaire et des fins de mois difficiles pour les familles. Reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Sur la route en terre qui mène vers le centre administratif de la commune de Kavizi en province de Bujumbura, de petits champs de maïs, de haricots et de manioc s'étalent à longueur de vue. Si la plupart affichent une verdure normale, la majorité de ces plants n'ont pas de fruits. Pour certains, la grêle a causé des dégâts énormes, tandis que le trop de soleil a détruit des champs pour le malheur des habitants. Cette femme, la trentaine et mère de quatre enfants, nous raconte le calvaire des agriculteurs de cette localité, jadis grande productrice de denrées de première nécessité.
Normalement, le prix des denrées alimentaires diminuait au moment des récoltes. Mais aujourd'hui, le prix au moment des récoltes n'a pas chuté, car il n'y a pas eu de production. C'est presque le même qu'au moment des semis. Comment va-t-on vivre, nous les petites gens? Nous allons mourir, tout simplement. Seul Dieu est capable de nous sortir de cette situation, ou l'intervention des bienfaiteurs.
Le trop de pluie et de soleil de cette partie du Burundi ressemble à celui des autres communes du Burundi profond. La faim a déjà emporté quelques Burundais dans certaines localités. Selon les témoignages des autorités administratives, cette femme n'en peut plus.
Nous n'avons pas eu de production pour les haricots. Il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Et pour le haricot et le maïs, il n'y a rien. Nous demandons aux autorités de tout faire pour venir à notre secours. Nous n'avons pas d'argent car on n'a pas de production pour vendre. Nos enfants enfin, c'est un problème. Que les hautes autorités nous viennent urgemment en aide, c'est ce que nous demandons.
L'administrateur de la commune de Kavizi estime que les bienfaiteurs devraient commencer à les soutenir, Renilde Ndaïchimier.
Nous avons transmis le rapport à nos supérieurs hiérarchiques. C'est à eux de prendre la décision. Il y a la diminution.
Ce qui fait qu'on a besoin d'aide pour appuyer la population.
Qu'est-ce que vous demandez aux bienfaiteurs? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités burundaises?
Ce qu'on demande au gouvernement d'abord, c'est d'essayer de chercher comment on peut appuyer la population à ce qui concerne les semences de deuxième saison.
L'appel de toutes ces femmes a été entendu par le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, quand il a rencontré les agences onusiennes où le Burundi a été placé en phase humanitaire. Le pays a besoin de 73,7 millions de dollars pour aider plus de 3 millions de paysans qui ont besoin d'aide urgente.
La détérioration de la situation socio-économique actuelle au Burundi peut être expliquée par deux causes principales. D'abord, peut s'expliquer par les catastrophes naturelles auxquelles s'ajoute le phénomène des Niño. D'autre part, par le fait qu'à la suite de la dégradation des rapports entre le gouvernement et certains de ses partenaires, il y a eu une réduction de l'aide directe, ainsi que l'épidémie de choléra.
Les représentants du ministère chargé de la solidarité affirment qu'une distribution de vivres sera ou est déjà faite dans les régions concernées. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique sont désormais complètement assiégés dans la ville d'Al-Bab, leur dernier fief dans la province d'Alep, dans le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH a précisé que les forces du régime avaient réussi dans la nuit de dimanche à lundi à prendre le contrôle de la seule route aux mains de l'État islamique qui liait cette ville au reste du territoire syrien. L'avancée de l'armée syrienne intervient alors que depuis le 10 décembre, Al-Bab est visée par une offensive menée par des rebelles syriens appuyés par les troupes de la Turquie au sein de l'opération Bouclier de l'Euphrate.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump va devoir livrer une difficile bataille judiciaire pour faire invalider l'ordre du juge fédéral de Seattle qui a suspendu temporairement son décret interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de sept pays à majorité musulmane. L'administration Trump a déjà essayé d'obtenir la levée de cet ordre devant une cour d'appel basée à San Francisco, mais cette dernière a rejeté sa demande en attendant de nouveaux documents que devait présenter dimanche soir les États de Washington et du Minnesota à l'origine de la plainte examinée par le juge Robert et lundi les avocats du gouvernement. Les cours d'appel américaines ayant tendance à préférer le statu quo, en l'occurrence la confirmation de l'ordre du juge Robert, il est vraisemblable que l'administration Trump devra poursuivre la bataille à l'échelon supérieur, c'est-à-dire la Cour suprême. Et Donald Trump a accepté l'invitation du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à rencontrer les dirigeants des États membres de l'Alliance Atlantique au mois de mai, a annoncé la Maison-Blanche dimanche. Le président américain qui a qualifié l'OTAN d'obsolète et dit vouloir se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine, grand détracteur de l'Alliance, a déclaré à plusieurs reprises que ses membres devraient participer davantage au coût de leur sécurité s'ils veulent que les États-Unis continuent à la garantir. Et puis la reine Elisabeth II, doyenne de monarques du monde entier, a battu ce jour un nouveau record en célébrant son jubilé de saphir qui marque ses 65 ans sur le trône d'Angleterre. La reine, qui a fêté ses 90 ans en avril, est montée sur le trône en 1952 à l'âge de 25 ans après le décès à 56 ans de son père, George VI.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Les lampions se sont éteints donc sur la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon et cinquième titre continental pour le Cameroun qui a battu 2-1 les pharaons d'Égypte, pourtant favoris sur cette finale. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, comme nous l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donagmaï.
La partie semblait pourtant mal engagée pour les lions camerounais. Ils regagnent les vestiaires avec un but enregistré à la 21e minute et signé El Neni. Le gardien de but camerounais, Fabrice Ondoa.
Et ils nous ont pressionnés très haut. À la deuxième minute, ils avaient déjà une occasion. Et un peu plus tard, ils ont mis le premier but. Et vraiment, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai ressenti de la fatigue au niveau de l'équipe aussi. Parce qu'on n'a pas eu de temps de repos, on n'a pas eu de temps de récupération. Mais je pense qu'avec la détermination, le courage et le cœur du lion que nous avons montré ce soir, c'est passé.
À la reprise, les Égyptiens qui étaient si vifs semblent maintenant léthargiques. Un fait que confirmera leur coach en conférence de presse. Les Camerounais saisissent cette opportunité pour égaliser par Nkoulou d'une belle tête. Venu du banc de touche, Vincent Aboubakar gagne un duel avec la défense égyptienne, marque et donne le trophée au Lion. Dans les gradins, leurs fans reprennent en chœur l'Égypte dans la sauce, l'Égypte dans la sauce, une adaptation de la chanson à succès de leur compatriote Renis. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Et point final à ce journal. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous laisserai en compagnie de Henri Francis dans 50 minutes pour un nouveau journal sur votre station préférée. Restez en notre compagnie et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.